Voilà, pile poil 14h, c'est le début de la deuxième heure de ce 1103e Sweet Home Chicago avec Little Bob. Où sont passés les bons temps? Where have all the good times gone?
Well, in my life I never stop to worry about a thing. Pumped up and shut out, never try to sing. Wonder if I done wrong. Will this depression last for long? Won't you tell me where have all the good times gone? Where have all the good times gone? Once we had an easy ride and always felt the same. Time was on our side, I had everything to gain.
Vous l'avez expliqué l'autre jour, Little Bob, en direct à la radio. C'est un titre emprunté aux Kinks. Ça fait partie de l'album We Need Hope, Little Bob Blues Bastards, disque du mois pour Sweet Home Chicago. On poursuit avec un premier extrait de cet album de Jean-Jacques Milteau qui s'appelle Lost Highway, avec le chanteur, guitariste et multi-instrumentiste américain Carlton Moody, et puis tous les compagnons de route habituels de Jean-Jacques Milteau, à savoir Manu Galvin, Jean-Yves Lozac, Gilles Michel et Christophe Deschamps. Et juste après le titre d'accroche, I can't help it if I'm still in love with you. On aura Jean-Jacques Milteau au téléphone pour cette interview à laquelle je vous invite à participer sur le Facebook Sweet Home Chicago.
have kissed you and held you just the way I used to do. Oh, heaven only knows how much I miss you. I can't help it if I'm still in love with you. Today I passed you on the street and my
album Lost Highway, Jean-Jacques Milteau avec le chanteur, guitariste et multi-instrumentiste Carlton Moody. Et donc Jean-Jacques Milteau, qui est à l'harmonica, ce que Marcel Dadi devrait continuer à être à la guitare, un ambassadeur mondial, un pédagogue né, auteur de nombreux ouvrages et méthodes, un infatigable militant du petit instrument, un défenseur du décloisonnement des styles entre bluegrass, country, blues, soul et jazz et chansons, bien sûr. Adepte d'Albert Reisner, très tôt éveillé au son de l'harmonica par Sonny Terry, Jean-Jacques Milteau remarque la présence de cet instrument dans les années 60 chez Bob Dylan, chez les Beatles dans Love Me Do avec Delbert McClinton notamment, ou chez les Rolling Stones, par exemple dans Not Fade Away avec Brian Jones, chez Donovan ou John Mayall. Un premier harmonica, un premier voyage initiatique en 1970 aux États-Unis. Jean-Jacques n'a que 20 ans. Il y rencontre Charlie Musselwhite, Carrie Bell, Charlie McCoy et tout s'accélère. Évoluant dans divers styles, il a collaboré avec un nombre incalculable d'artistes de renom, d'abord en chanson française et Mitchell, Charles Aznavour, Yves Montand, Florent Pagny, Renaud, Francis Cabrel, Maxime Le Forestier, Richard Bohringer, Michel Jonas, Claude Nougaro. En country, on pourrait citer Charlie McCoy, Bill Monroe, Doc Watson, qu'on écoutait tout à l'heure. Et puis en blues et en soul, la liste est absolument impressionnante. Paul Persson, Greg Slapp, Gilles Scott Heron, Terry Collier, Howard Johnson, Dombey, Little Milton, Mighty Sam McLean, Pied Top Perkins, Super Chicken, Mighty Mo Rogers, Preston Shannon, Demi Evans, Andrew Jones, Lee Dawkins, Ron Smith, Michael Robinson, Marvin Wright, et même B.B. King. Bonjour Jean-Jacques Milteau.
Bonjour.
Voilà, tout ce florilège, tous ces noms comme ça qui viennent, quand on épluche un petit peu votre bio, ça donne vraiment le vertige. Cette dernière interview redate dans Sweet Home Chicago sur le 666. Je suis remonté au 19 octobre 2008 à l'occasion de la sortie de l'album Soul Conversation. Ma première question, Jean-Jacques, ce serait plus de 12 ans après, on peut dire que le monde a bien changé et la liste des collaborations s'est encore étoffée avec Harrison Kennedy, Vincent Segal, Eric Bibb. C'est pas prêt de s'arrêter.
L'avenir nous le dira. je ne souhaite pas que ça s'arrête, mais en même temps, il faut se calmer le temps passant.
Si on doit retenir quelques noms parmi ceux que je viens de citer dans la chanson, dans la country, dans le blues, lesquels sont le plus marquants, les plus significatifs, les plus prégnants à vos yeux, à vos oreilles?
Ah, c'est difficile à dire comme ça, de choisir, c'est comme entre ses enfants, lequel on préfère.
Bien sûr.
C'est une expérience continue, je dirais, le fait d'avoir pu fréquenter ou croiser simplement la route des gens que vous avez cités tout à l'heure, c'est une véritable richesse. C'est pas la rencontre avec un seul d'entre eux, mais avec l'ensemble d'entre eux qui constitue une vie finalement.
Oui. Ouais. Et on peut parler également des signatures, parce que la musique, c'est pas seulement des collaborations artistiques, c'est aussi des signatures avec des labels, et puis c'est aussi des noms de personnes. C'est important pour vous, je crois, les noms de gens. Pour Universal, c'est Daniel Richard, pour Dixie Frog, c'est Philippe Langlois. Absolument. Et puis à présent, on est chez Sunset Records. Alors, qui est votre interlocuteur là-bas?
C'est Stéphane Portet, qui est le patron du Sunset. En fait, cet album, l'album dont on parle, Lost Highway, C'est une idée du batteur Christophe Deschamps qui a joué avec nous un soir avec Carlton Moody, qui m'a dit c'est super cette formule, on devrait l'enregistrer. J'ai dit si tu veux, comme il y a un studio en dessous de chez lui, enfin dans sa cave, on est allé se faire ces 10 morceaux comme ça en rond pour le plaisir, mais c'était pas destiné à être un disque du commerce. Et, en fait, Stéphane Portet, qui est patron du club Sunside Sunset à Paris, a monté un label il y a quelques temps, et comme on était passé chez lui, il a écouté l'album, il a trouvé ça très bien. Et elle a décidé de sortir. Voilà toute l'histoire.
Voilà, belle histoire. On va décortiquer tout à l'heure ce disque-là, mais j'ai d'autres questions un petit peu plus générales par rapport à notamment à votre liberté de création. Est-ce qu'elle a toujours été entière sous n'importe quel label?
Absolument, oui. C'est pour ça que je n'ai jamais eu à me plaindre de contraintes particulières. Il y a, des gens m'ont donné leur avis, ce qui est la moindre des choses, mais je n'ai jamais été obligé de faire telle ou telle chose.
Il y a une association qui vous tient à cœur, qui s'appelle Le Souffle du Blues, créée par des musiciens. Est-ce qu'elle a toujours une actualité?
Ben malheureusement, après cet épisode pandémique, je dirais que c'est en sommeil depuis bien longtemps. Il va falloir voir comment l'ensemble de la société va se réveiller pour voir ce qu'on va faire de tout ça.
Ouais, pour réactiver peut-être aussi du côté d'Utopia, qui est un café-concert auquel vous êtes lié depuis plus de 30 ans. Il y a encore un avenir pour Utopia, pour la musique live, après cette pandémie, je l'espère, nous l'espérons tous.
J'espère également, je croise les doigts, simplement. Effectivement, tant que on ne sera pas revenu à un minimum de fréquentation possible dans les lieux, c'est pas possible de les réouvrir, parce que ce serait pas raisonnable financièrement.
La musique, on l'écoute habituellement sur scène, sur disque, mais bien, on continue à l'écouter à la radio, et c'est tant mieux. Jean-Jacques Milteau, vous êtes animateur de radio depuis plus de 15 ans avec cette émission Bon Temps Roulé sur TSF Jazz, en collaboration avec le pianiste Johan Delgarde. Je voulais savoir si le partage de vos coups de cœur musicaux ne constitue pas une sorte de thérapie en cette période inédite, justement.
Ben, vous avez peut-être mis le doigt sur une réalité, oui, effectivement. Ben, si vous voulez, l'activité humaine se réalise dans la rencontre, hein, je veux dire dans la pluralité. On n'est pas unique dans son coin. Il faut qu'on s'intermêle, je dirais, avec les autres d'une manière ou d'une autre. Le fait d'échanger, ne serait-ce que des titres qu'on aime, c'est déjà quelque chose.
Et il faut y revenir sans cesse. C'est vrai, c'est un rythme hebdomadaire, c'est ça?
Oui, c'est tous les mardis soirs à 19h. Avec rediffusion le samedi.
Voilà, sur TSF Jazz. Et récemment, vous avez évoqué le producteur Mike Vernon, mais il y a plein de choses très très différentes, il y a beaucoup d'entrées différentes, il y a eu le thème de la honte, Shame, la thématique Made in London, pêle-mêle, j'ai retrouvé dans les dernières émissions le Texas, la Telecaster, les bars, Soul Bag, avec notamment chez Mika Copeland, qui en faisait la couverture il y a trois mois, des émissions bien sûr consacrées à des artistes en particulier. On dirait que chaque angle peut être bon pour faire partager vos coups de cœur, votre passion. Tout est possible dans l'émission Bon Temps Roulé?
Vous savez, au bout de presque 20 ans d'émission, c'est difficile de trouver des thèmes originaux. Donc, l'arrivée d'Iran Dadgard il y a 3 ans m'a beaucoup aidé, parce qu'en fait, on est toujours dans le processus de l'échange. Et il amène ses thématiques aussi à chaque fois qu'on se rencontre pour enregistrer. Donc voilà, les thématiques, c'est toujours des excuses pour écouter des morceaux.
Oui, effectivement, mais justement, voilà, être deux, peut-être mélanger ces idées, c'est peut-être un enrichissement. Ça fait 3 ans, donc, que Johan participe à cette émission.
Oui, je crois que c'est ça. Puis bon, Johan est une autre génération que la mienne. Hein. Je veux dire, il est plutôt quadra que Septua.
Ouais.
Donc, on n'a pas les mêmes intérêts et les mêmes connexions avec la musique. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment très, très intéressé par les types de musique qu'on diffuse, et qui connaît admirablement bien leur histoire.
Et qui lui aussi a une très très grosse expérience de la scène et des collaborations avec des artistes multistyles, j'ai envie de dire.
Oui, tout à fait. Puis il a été longtemps... En fait, il est venu en France comme accompagnateur d'un bluesman,
ouais.
Big Joe Turner, le bassiste. Et il est resté habité ici, il joue ici puisqu'il habite à Paris avec ses deux fils, sa femme et ses deux filles.
Dans Bon Temps Roulé, il y a des artistes qui émergent significativement de vos playlists récentes. En clair, quels sont les artistes passés ou présents qui vous inspirent ces temps-ci?
Ben, passé, je reste toujours inspiré par les mêmes, mais en même temps, le fait de chercher, quand je prends une thématique un peu fantaisiste, comme Shame tout à l'heure, la honte, je veux dire, je cherche parmi les titres qui comportent le mot Shame. Et du coup, ça me fait réécouter énormément énormément de choses qui m'avaient échappé, en général, soit des choses dont je ne me rappelais plus, soit qui m'avaient totalement échappé à l'époque de leur parution, ou même de leur reparution. Donc ça m'oblige à voyager dans le temps, et le voyage dans le temps, c'est assez sympa. Oui. J'aime bien le côté un peu historique des choses. Quand je parle de l'émission, je dis que c'est une émission hebdomadaire et patrimoniale, parce que le patrimoine, c'est une manière de voyager dans le temps, quelque part.
Et la radio, c'est un bon vecteur aussi pour voyager dans le temps, parce que, en plus, ça n'utilise, j'allais dire, que les oreilles, ça fait davantage peut-être travailler l'imagination, et ça n'empêche pas de vaquer à ses tâches manuelles, quotidiennes, par exemple.
Oui, puis il y a certainement beaucoup à apprendre sur le phénomène de l'audition, enfin de l'oreille. On dit que l'oreille, c'est l'organe de la peur, parce que les hommes préhistoriques guettaient les moindres bruits dans l'obscurité.
Ah ouais.
Mais l'oreille a une connexion, je pense, particulière avec l'affectif qu'on mesure pas.
Il y a une série de questions que je voulais amener vers l'album tout à l'heure, Jean-Jacques Milteau. C'était par rapport à la country music et au bluegrass. D'une manière générale, question très très ouverte, quels sont vos rapports personnels à la musique country?
Bah, personnellement, j'aime bien. Je veux dire, tout simplement, c'est-à-dire j'ai écouté... la musique country, c'est vaste, c'est presque plus vaste que le blues. En termes de style, en termes d'artiste. Et moi, je suis venu à la musique par le mouvement folk des années, début des années 60. Et donc, il y avait énormément de musique traditionnelle, à la fois blanche et noire, c'est-à-dire venant du blues, venant de la musique country, à l'époque, qui était prônée par des artistes comme Pete Seeger, par exemple, mm-hmm. et d'une manière plus large par des gens comme Bob Dylan. Même les Stones qui ont utilisé des titres existants comme Long Black Veil ou des choses comme ça. Et quelle était la
question, c'était vos rapports personnels à la musique country,
c'est simplement des sonorités que j'aime, quoi.
Et justement, vous évoquiez ce groupe folk dans lequel vous évoluez dans les années 70. Vous évoluiez dans les années 70, ce groupe New Bluegrass Connection. On avait évoqué ça lors de cette interview en 2008. Je voulais savoir, maintenant qu'on est en 2021, quels sont les souvenirs que vous gardez de cette expérience à cette époque-là? On est vers 1974, je crois.
Oui. Bah, déjà, un autre monde, hein, c'est-à-dire que... je pense qu'il y avait un avenir plus clair. En tout cas, on se faisait une idée d'un avenir plus clair que celui qu'on peut avoir actuellement. Hormis l'aspect de la pandémie, je dirais. Il y avait peut-être moins conscience, enfin en tout cas beaucoup moins conscience de l'enjeu écologique. Donc on pouvait espérer pouvoir avancer encore un peu raisonnablement, je dirais, vers quelque chose de mieux. Là, on est arrivé à un point où on a tiré sur la ficelle tellement considérablement que... je dis ça peut paraître quelque chose de général, mais en fait, c'est quelque chose qui doit nous inspirer tous les jours.
Avec ses mots à lui, c'est un peu ce que disait Little Bob l'autre jour en interview, en parlant justement « Where have all the good times gone ?» le titre qu'on écoutait tout à l'heure. On n'est plus dans le même monde, finalement.
Non, bien sûr, mais je pense que c'est normal. Si on prend dans le passé un intervalle de 40 ans comme celui que... ou même de 50, comme celui que vous avez évoqué tout à l'heure, je veux dire, les gens de 1848 n'étaient pas les gens de 1789.
Bien sûr. La nostalgie n'est plus ce qu'elle était, disait Simone Signoret.
Aussi.
je reviens à la musique country et puis au blues, qui était un petit peu en filigrane quand vous compariez la richesse, finalement, de ces deux cultures musicales. Je voulais savoir si vous pensiez qu'il y avait beaucoup d'articulations entre la country et le blues. Ça a été l'objet de pas mal de thèses, notamment Gérard Azaft en a longuement parlé. Il y a des ponts, bien entendu.
Bah c'est la même origine, c'est une world music. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des Africains... déportés d'Afrique pour travailler dans les plantations américaines. Et de l'autre côté, il y a des Anglo-Irlandais, des Espagnols, des Français, des Allemands, des Hollandais qui ont quitté leur pays parce qu'ils sont persécutés pour des raisons religieuses. Donc ils se retrouvent sur un même territoire. C'est au détriment des Indiens, mais au bénéfice de la musique, d'une certaine manière.
Il y a plein de choses à dire à propos de la country music, mais il y a quand même une question qui m'interpelle. Comment est-ce qu'on peut expliquer que cette musique-là, peut-être qu'on préfère appeler de nos jours, peut-être de façon un peu trop simpliste, l'Americana, comment se fait-il que ça ne perce pas en France?
Ben, je crois qu'elle a une très mauvaise image parce que en fait la musique country est assimilée avec une vision assez droitière de la politique, ce qui est peut-être pas totalement faux d'ailleurs, mais j'ai entendu des propos extrêmement droitiers de pas mal de bluesmen aussi. Et bluesmen qui écoutait beaucoup de musique country, par ailleurs.
Oui.
Et c'est certainement... Il y a une appréciation assez péjorative, je dirais, de la musique country ici. On n'en voit pas la... Je ne veux pas dire la noblesse, mais l'excellence. Dans la simplicité, les titres qui figurent sur l'album, je veux dire, les titres de Hank Williams, c'est des choses imparables, hein, c'est des chansons qui sont... Et ici, il y a énormément... Beaucoup de gens qui aiment, mais il y a très peu de manifestations officielles, je dirais, le festival.
Oui,
de...
oui, oui, voilà.
Mais le public aime beaucoup.
Dernière question avant d'aborder vraiment le contenu de l'album. On en parlait tout à l'heure, le guitariste chanteur Mathis Hogg, qui vous passe le bonjour, entre parenthèses, sort ces jours-ci un tribute à Doc Watson. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce père fondateur de la country, Doc Watson?
Doc Watson, c'est un personnage extraordinaire parce que c'est quelqu'un qui traverse un peu les styles d'une certaine manière. Il a commencé par faire du rockabilly. C'était un guitariste aveugle. Il a appris la guitare, l'harmonica, le banjo en autodidacte. Et à un moment de sa carrière, un producteur lui a demandé de se remettre à la guitare acoustique. Et c'est ce qui a fait toute son aura, je dirais, parce que il a impressionné comme ça des multitudes d'instrumentistes et de fans à travers le monde. Il était originaire des Appalaches, de Caroline du Nord, je crois.
Mmh.
Et en fait, il était aveugle, il me semble qu'il était aveugle de naissance. Et il était vraiment doué pour la musique. Il avait une voix extraordinaire. Même quand il chante a cappella, c'est très touchant. Et, on retrouve justement dans cette musique, vous parliez de comparaison entre qu'est-ce qui fait le charme de la musique country. Il y a quelque chose dans le bluegrass et dans le old time que les Américains appellent le mountain sound ou le lonesome sound. Il y a un son un peu de solitude des montagnes, des Appalaches, que Doc Watson avait particulièrement. Et puis aussi le fait d'être un virtuose, même si j'aime pas utiliser ce terme-là, un virtuose de la guitare et des autres instruments. Impressionnant.
Voilà, Doc Watson, à qui ça fait un point commun avec Carlton Moody, qui est également en Caroline du Nord. Moi, je vais me permettre de reprendre ces quelques phrases que vous signez sur l'album de présentation de Lost Highway. Et puis, on en parle juste après, si vous voulez bien. et là, vous demandez dès le départ, est-ce la musique qui fait les rencontres ou bien l'inverse? Évoquer l'ombre de Hank Williams nous a rassemblés pour un détour par ce Lost Highway. Cet enregistrement, tout serein qu'il fut, est la poursuite d'un rêve agité. Le rêve d'un siècle de musique, jazz, rock, soul et d'autres moins populaires mais tout aussi passionnantes, blues, folk, country, qui font le bonheur des curieux d'humanité, des chercheurs d'histoire singulière, des regardeurs d'horizon. Adolescent, l'harmonica fut ma ligne directe avec l'Amérique, celle de tous les malentendus et de tous les possibles. À travers la musique, j'ai découvert un monde d'injustice et de violence, de passion et de culture multiforme, mais surtout un monde de musique vivante tel que nous en avions perdu l'usage. Se réunir et jouer, juste pour dompter la solitude, avant de reprendre une route qui ne s'arrête qu'avec l'oubli. Et c'est signé Jean-Jacques Milto. Je reviens sur ces quelques phrases. Dompter la solitude, la route infinie, c'est quoi? C'est une référence à Jack Kerouac?
Non, pas spécifiquement, c'est quelque chose... c'est une sorte de rêve de gosse qui regardait les westerns de John Ford. Et, moi, je suis un enfant du clan Marshall. Hein, je veux dire, donc les États-Unis avaient imposé un quota de films américains. Je me demande s'ils n'avaient pas imposé les feuilletons à la télé. On voyait Roy Rogers et son cheval Gâchette tous les midis en rentrant de l'école. Je veux dire, il y avait une vraie entre guillemets culture américaine. Hein, qui était un peu imposé, je dirais, par le pays qui avait gagné la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est quand même eux qu'on fait beaucoup de choses, même si il y a eu beaucoup de Russes qui sont morts par ailleurs. Donc il y avait une lutte très
âpre, peut-être,
pardon,
très âpre.
Oui, très âpre entre la propagande américaine et la propagande communiste à l'époque.
Voilà, voilà.
Donc, on subissait un peu le contre-coup de ça et on restait dans cette idée d'itinérance qui est très chère aux États-Unis. Hein. Les Américains ne tiennent pas en place. Enfin, c'est ce qu'on disait avant. Ça fait partie de la légende, le road movie et tout ça.
Bien sûr.
La rue vers l'ouest.
Vous dites, est-ce la musique qui fait les rencontres ou bien l'inverse? J'ai bien envie de vous retourner la question, Jean-Jacques Mitou.
Ben, je serais bien en peine de le dire, parce que si j'ai joué de l'harmonica, c'est parce que j'ai rencontré un copain qui en jouait quand j'étais gamin, qui m'a un peu montré deux, trois trucs en écoutant Bob Dylan et Rolling Stones et tous ces gens-là dans les années 60. Je me suis initié à l'instrument. Donc c'est cette rencontre avec des artistes que j'écoutais et avec ce copain qui jouait un peu de d'harmonica et de guitare. Donc c'est les rencontres qui font la musique, et la musique qui fait les rencontres, parce que c'est comme ça que j'ai rencontré Carlton Moody, parce que je jouais à Utopia et lui aussi.
Voilà, on va évoquer Carlton Moody. J'ai juste une dernière question avant qu'on écoute un nouvel extrait de cet album Lost Highway, justement par rapport à l'harmonica, parce que c'est l'instrument de compagnonnage par excellence qu'on met dans la poche, qui est toujours prêt à en jaillir. Quel instrument extraordinaire, cette harmonica. Avez-vous des exemples, des anecdotes au cours desquelles cet instrument a brisé la glace entre vous et vos interlocuteurs nouveaux?
Oui, déjà, ça brise la glace parfois dans les aéroports quand ça sonne au portique et que j'en sors un pour montrer que c'est un instrument de musique et éventuellement je joue quelques notes pour rassurer les services de sécurité. C'est une plaisanterie, mais je veux dire, ça a brisé la glace avec tous les gens que j'ai pu rencontrer, à commencer par ma compagne.
On va écouter un nouvel extrait. On va se retrouver juste après en direct sur Radio 666 avec Jean-Jacques Milto. Voici Flying Scotman, extrait de cet album Lost Highway chez Sunset Records. Flying Scotsman, un titre coécrit par Jean-Jacques Milto sur l'album de Jean-Jacques Milto, Lost Highway, avec Carlton Moody, Madu Galvin, Jean-Yves Lozac, merveilleux pédal style guitariste, Gilles Michel et Christophe Deschamps pour la rythmique. Jean-Jacques Milto, toujours au téléphone en direct sur le 666.
Allô, allô.
Jean-Jacques Mitteau, toujours là, super. Je voulais qu'on évoque un petit peu Carlton Moody, qui est l'invité principal de ce disque, et puis peut-être aussi savoir comment s'est opérée la rencontre. Carlton Moody est né en 1955 en Caroline du Nord. Il fait partie d'une famille totalement baignée dans la country music, inscrit dans la grande tradition musicale des Appalaches. On en parlait, il joue depuis le plus jeune âge de la guitare, mais il est également adepte du banjo, de la mandoline, du dobro, du violon et du piano. Durant les années 70, à l'image de votre groupe, Jean-Jacques Mitteau, New Bluegrass Connection, mais il joue dans le style bluegrass dans le groupe Caroline's Park, devenu célèbre dans les années 80 avec le groupe The Moody Brothers, et reprend Cotton Eye Joe, titre traditionnel dont on peut également entendre la plus ancienne version, celle de Johnny Carson, qui date des années 1925, je crois. Carlton Moody joue actuellement au sein du groupe Burrito Deluxe. Il réside en France et il se produit régulièrement à l'ambassade des États-Unis à Chessy, en Seine-et-Marne. Je vais parler de Disneyland Paris. Et son fils Jackson semble être d'ailleurs prêt à prendre la relève. Jean-Jacques Mitteau, comment s'est opérée la rencontre avec Carlton Moody? Pourquoi l'avoir choisi particulièrement lui, pour assurer toutes les parties vocales de l'album?
Ben en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, on jouait tous les deux au Club Utopia, pas forcément le même soir, mais j'écoutais un peu sa musique, et je me disais qu'un jour ou l'autre, ça serait bien qu'on fasse quelque chose. J'en ai parlé à Gilles Michel, qui jouait à la fois avec moi et avec lui, qui nous a mis en contact, et on a décidé de faire quelques concerts ensemble, et ensuite, il y a eu ce concert avec Christophe Deschamps, que j'évoquais tout à l'heure, et oui, à la suite duquel on a enregistré l'album.
Et alors, ce titre-là, le titre de l'album, qui s'appelle Lost Highway, genre, c'est une chanson de Léon Payne, popularisée par Hank Williams au milieu du XXe siècle. Lost Highway, est-ce que c'est comme la route 66, une autoroute perdue parce que de moins en moins de gens y circulent, ou parce que l'album contient des pépites oubliées, revitalisées, notamment le répertoire de Hank Williams?
Je trouvais que le titre était accrocheur, d'une part, et puis ça reprenait toujours cette idée de route dont on parlait précédemment, de route qui va un peu vers nulle part et en même temps vers un avenir meilleur, quoi. Mmh. Je reviens toujours à cette notion-là. Il y a ce côté du déplacement pour aller vers le mieux.
Il y a toujours de l'espoir, il y a toujours de l'espoir en roulant droit devant soi.
C'est l'élément essentiel de ces musiques, je pense.
Est-ce qu'on peut dire que cet album est une ode à la country ou à Hank Williams en particulier?
Disons que c'est très marqué par les sonorités country, comme vous avez pu l'entendre. C'est un hommage à cette musique bien modeste, parce qu'il y a tellement de gens qui excellent dedans.
Hank Williams, il est parti très jeune, il n'avait pas 30 ans, c'était en 1953. Je voulais savoir quel écho a le fait de rendre hommage à ce personnage clé de l'histoire de la country music 68 ans après sa disparition.
Comme vous le disiez, il est parti jeune, il est parti sur la route, il est mort sur la banquette arrière de sa voiture.
Ouais.
Il était assommé par les tournées parce que la route était interminable pour lui, c'est-à-dire qu'il allait de club en club. Donc il prenait des médicaments et il picolait, et c'est ce qui l'a tué. À côté de ça, c'était un fantastique compositeur, auteur-compositeur, parce que les morceaux qu'il a composés sont encore interprétés régulièrement par des tas d'artistes à travers le monde. Et une chanson aussi simple que I'm So Lonesome I Could Cry, c'est une pure merveille.
On retrouve Manu Galvin, qu'on voit derrière vous depuis des années, Gilles Michel à la basse, Christophe Deschamps à la batterie, augmenté de l'indispensable Jean-Yves Lozac, donc pédale, skill, guitare. C'est une équipe fidèle et tout terrain qui sait vraiment s'adapter au changement de style. Je voulais savoir, Jean-Jacques Mitteau, quel lien vous unit les uns aux autres?
Je dirais une profonde amitié, presque fraternité, depuis le temps qu'on travaille ensemble. On a préparé une petite vidéo il y a quelques jours, et chacun y est allé de son petit mot pour dire ça fait plaisir de se retrouver, de rebosser ensemble. Spontanément, chacun a envoyé un mot aux autres pour manifester son plaisir.
Carlton Moody, qui a inséré une composition parmi les 10 titres de l'album, qui s'appelle State of Tennessee. Ce titre figurait sur son album de 2020, qui s'appelle Meet Me in Paris. Je voulais savoir à quel point ce titre s'imposait particulièrement dans votre disque. Qui l'a choisi?
C'est moi.
Ouais.
C'est moi, parce que je trouve que l'ambiance est d'abord différente des autres titres. C'est un peu blues, donc ça me convient très bien. Je dirais que je suis assez fier de ce qu'on a fait de la voix de Carlton, comment on a passé la voix de Carlton dans cet album. Je trouve que ça lui rend vraiment hommage, parce qu'il a une voix magnifique, et aller vraiment sans, sans intermédiaire, sans artifice, particulièrement dans cette composition.
Comment s'est opéré le choix des titres et à quelle hauteur s'est portée la collaboration entre Carlton Moody et vous-même ?
En fait, le choix, c'est entièrement ma responsabilité. J'ai fait selon mes goûts et j'ai essayé de faire, comme je vous le disais, ça part d'une liste de concerts, d'une liste de cette liste. Et j'essaye toujours de composer une cette liste de telle manière à ce que ce ne soit pas ennuyeux et qu'il y ait des choses aussi diverses qui permettent de partager un bon moment avec le public. Quoi.
Ça veut dire que Lost Highway, éventuellement, aurait pu être un double album, pourquoi pas ?
Ah, ça peut toujours, oui, mais il faut savoir être modeste.
Il y a Johnny Cash, on parlait de cette liste. Johnny Cash, il n'est jamais très loin quand on parle de cette liste country. Il est présent dans votre album avec ce fabuleux Folsom Prison Blues. Quel regard est-ce que vous portez sur la vie et la carrière de Johnny Cash ?
Un regard admiratif, je dirais, parce que c'est un... Je crois qu'il était né dans l'Arkansas, il me semble. Il doit avoir un peu le même genre de parcours que Charlie Musselwhite, finalement, qui était né pas très loin de là. C'est-à-dire très 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 en prise avec le blues. Il a une vraie dès qu'il ouvre la bouche, je veux dire, non seulement par sa voix, mais par le style de sa musique, on sait que c'est lui, quoi. Johnny Cash, on peut pas le rater.
Effectivement, né à Kingsland, en Arkansas, en 1932, il nous a quittés en 2003, ça fait déjà un bon moment, mais c'est un artiste auquel on pense toujours, et la preuve, hein, pour ce recueil, Jean-Jacques Minto, vous avez inclus Folsom Prison Blues, un morceau, je vais dire, un petit peu classique, hein, dans son répertoire.
Oui, bien sûr. Et c'est tellement un beau morceau que... Là, on n'a pas hésité à faire des classiques sur cet album.
Qui sont les autres artistes de country music, passés ou présents, qui vous font rêver, qui continuent à vous faire rêver ?
C'est plus des interprétations que des artistes, je dirais. Il y a George Jones, par exemple, est un grand chanteur. Jeff Walker, un grand compositeur. Donc George Jones, on a repris une chanson qui chantait, qui est « She Fixed My Steel Car ». Mr. Bojangles, c'est une composition de Jeff Walker. Il y a des artistes comme ça qui sont... Chris Christopherson, c'est quelqu'un dont j'aime beaucoup les compositions. Willie Nelson, évidemment. Dolly Parton, qui est une grande compositrice et qui a une voix très, très particulière, un peu comme Willie Nelson, quelque part, qui a ce lonesome sound que j'évoquais tout à l'heure.
Ouais, d'accord. Jean-Jacques Milteau, j'ai d'autres questions. J'avais préparé quelques questions plus générales, on va dire, en dehors de cet album-là. Mais je vais également laisser la parole à nos auditeurs. Il y a des gens qui s'expriment sur le Facebook de l'émission Sweet Home Chicago, et notamment Ronan One Man Band, qui est également un artiste, qui, à l'écoute de votre CV en tout début d'interview, vous pose directement la question. Comment rester humble avec un tel CV, Jean-Jacques Milteau?
Je sais pas, je ne me suis jamais posé la question sous cet angle-là. C'est pas de ma faute si j'ai croisé tous ces gens-là.
C'est pas uniquement parce que
je voulais me faire mousser. Ça s'est trouvé comme ça, en fait. Pour beaucoup d'entre eux, les circonstances ont fait. Bon, je me suis débrouillé pour être à la croisée des chemins. Quand j'ai pu faire le bœuf avec B.B. King au Festival de Nice, j'étais venu quand même dans l'intention de le rencontrer.
Right place, right time.
Voilà. Mais il n'y a pas de raison enfin, on peut en être fier, sans pour ça être immodeste.
Oui, tout à fait. Une autre question qui nous vient d'un autre artiste qui s'appelle Dom Ferrer, qui fera l'objet d'une interview la semaine prochaine, justement, dans l'émission, et qui ne pose pas véritablement de questions, mais qui évoque simplement le fait d'une collaboration avec un garçon comme Brian Setzer.
Ah, je n'avais pas pensé à lui, mais oui, ça pourrait être intéressant.
C'est intéressant, ouais.
C'est vraiment très, très, très dynamique, très rock. Je ne sais pas comment est Brian en ce moment, mais je me rappelle de... On avait plus ou moins croisé à l'époque où je jouais avec Alain Giroux. Il fréquentait un peu les mêmes motards. c'est quelqu'un qui est très, très, très rock, quoi. Enfin...
J'ai d'autres questions, et notamment une sur la pédagogie. Jean-Jacques Milteau, les manuels, les méthodes d'harmonica, les vidéos, c'est autant de façons de transmettre l'instrument aux générations futures, finalement, parce que voilà, tout ce que vous avez fait, c'est très complet, et puis au fil des années, il existe des approches différentes d'un ouvrage à l'autre, et l'ensemble reste très complémentaire, sans redite. Qu'est-ce que vos différents supports apportent en plus, car il n'y a pas que la technique?
Bah, il faut quand même un peu de technique au départ pour s'exprimer. Hein. Je veux dire, il faut savoir tenir un porte-plume pour écrire. Donc là, c'est un peu ce que j'essayais de faire, c'est-à-dire de donner des lignes directrices qui font qu'après, les gens puissent s'exprimer comme ils le souhaitent avec leur sensibilité personnelle. Il se trouve que c'était une autre époque. Hein, maintenant, il suffit d'allumer YouTube et vous tombez sur des gens qui vous donnent des tas de conseils, tous aussi bons les uns que les autres. Donc c'est à vous de choisir. Mmh.
Jean-Jacques Milton, on en arrive à une toute dernière série de questions. Ce sont des questions flash, des questions qui vont vite et qui appellent peut-être des réponses condensées, j'ai envie de dire, si c'est possible.
On va essayer.
Jean-Jacques Milton, pour revenir sur les différents styles dans lesquels vous avez évolué au cours de ce premier demi-siècle de carrière, est-ce qu'on peut dire que vous ne vous êtes jamais laissé enfermer dans une chapelle ?
En tout cas, pas sans en avoir la clé.
Très bonne réponse. Jean-Jacques Milton, vous dites souvent que le blues c'est un folklore mondial, qu'on peut en jouer partout dans le monde. Est-ce que tout le monde peut jouer du blues? Et en est-il de même pour tout style musical?
Est-ce que les cuisiniers japonais peuvent faire de la cuisine française? La réponse est oui. Donc pour le blues, ça peut être pareil.
La lutte pour les droits civiques aux États-Unis, est-ce que c'est un sujet qui continue à vous intéresser, à vous préoccuper?
Absolument, parce que je crois que ce qui se passe aux États-Unis nous arrive sur le coin de la figure quelques temps après. Sous une forme parfois détournée, mais c'est un pays qui est quand même un petit peu en avance sur nous, je parle pas dans un sens péjoratif, mais qui a une horloge qui tourne un petit peu en avance sur la nôtre. Et quand ils ont des problèmes, on voit avec les problèmes intracommunautaires qu'ils ont eus, on les a aussi parce qu'on n'a pas fait attention.
Tout à fait. Un petit commentaire à propos de l'actualité avec ce jugement définitif qui est attendu pour juin prochain du policier criminel qui a assassiné George Floyd l'an dernier.
C'est très difficile à se prononcer sur des choses aussi officielles. Je sais pas le rôle d'un musicien de commenter des décisions de justice.
D'accord.
Je pense que chacun a son opinion. C'est clairement un drame. La mort d'un homme, c'est une chose qui ne se commande pas.
Ça m'amène à la question suivante qui peut-être demandera un petit développement, je ne sais pas. Les relations humaines, en tout cas, au-delà des rapports entre pays et gouvernements, est-ce que les relations humaines, c'est toujours la clé, le remède aux maux de notre société ?
Vous savez, il y a 100 ans, il y a des soldats français qui ont été fusillés parce qu'ils avaient échangé des cigarettes avec des soldats allemands le jour de Noël. Donc, si vous voulez, vous ne pouvez pas tuer en masse des gens que vous connaissez.
Ouais.
Vous pouvez tuer votre voisin parce qu'il vous a fait une crasse. Mais vous ne pouvez pas déclencher une guerre avec des gens que vous connaissez bien. Quoi. Enfin, en tout cas, vous n'y irez pas spontanément.
Excellente réponse, oui, effectivement. Je n'avais pas pensé sous cet angle. Quel regard est-ce que vous portez sur ce demi-siècle de praticien de l'harmonica que vous êtes, de musicien, de raconteur d'histoire, de faiseur de rencontres, de pédagogue de la musique et d'animateur radio? Quel regard est-ce que vous portez sur vous-même, tout ce partage, tout simplement, sur toutes ces années-là?
C'est un miracle. C'est un miracle parce que je n'aurais jamais pensé avoir accès à autant de choses grâce à l'harmonica. Enfin, je veux dire, un petit instrument de 10 cm de long que je trimballais dans ma poche quand j'étais ado. Donc, c'est purement miraculeux.
Ouais.
Mais ça veut dire aussi que maintenant, à notre époque, il y a des jeunes qui découvrent un truc équivalent à l'harmonica, je ne sais pas ce que c'est, un logiciel ou je sais pas ou tout simplement un crayon et ce qui va changer le cours de leur vie.
Tout à fait. Ouais. Il me reste deux questions, Jean-Jacques Milton. Malgré le nombre incalculable de vos rencontres musicales et on en a cité que quelques-unes tout à l'heure, est-ce qu'il existe encore des artistes vivants avec lesquels vous aimeriez travailler prochainement? On parlait de Brian Setzer tout à l'heure, mais venant de vous, alors qu'est-ce qu'il y a dans le cahier de brouillon de Jean-Jacques Milton?
Ben là, comme je le disais au début de l'interview, l'avenir nous le dira, mais c'est un peu difficile de raisonner comme ça en termes d'individus, je dirais. C'est pas tout à fait comme ça que se construit un projet.
Alors même sans qu'il y ait de projet et sans qu'il y ait de cahier de brouillon, il y a peut-être des rêves finalement qui vous traversent l'esprit et qui n'appartiennent qu'à vous après tout.
Voilà, donc je vais les garder.
Complètement. Excellente réponse également. Dernière question, qu'est-ce qu'il faut souhaiter à Jean-Jacques Milton, à moyen et à long terme, on va dire pour les mois, les années à venir, dans cette période tout à fait particulière?
Bah, qu'il soit content de la société dans laquelle il vit, parce que je pense que si je suis content de cette société, c'est qu'elle ira bien. Ce qui n'est pas toujours le cas.
Merci beaucoup pour cette interview en direct. Là, je le rappelle, sur le Triple 6, l'album s'appelle Lost Highway. Il est signé Jean-Jacques Milteau. On y retrouve Carlton Moody, Manu Galvin, Jean-Yves Lozac, Gilles Michel, Christophe Deschamps. C'est sur Sunset Records. Merci Jean-Jacques Milteau.
Merci à vous.
À bientôt.
Thank you.
de Léon Payne, Lost Highway, donne son nom à l'album dans Jean-Jacques Milteau. Lost Highway chez Sunset Records. Encore merci pour cette interview en direct, Jean-Jacques Milteau. Très très bon moment de radio, en tout cas tel que je l'ai vécu grâce à vous. On poursuit avec Little Bob, l'album We Need Hope. Ce sera le dernier extrait pour l'émission et pour ce mois-ci, puisque c'était le coup de cœur du mois pour Sweet Home Chicago en avril 2021. Voici You Can't Come Back, un des trois titres que Bob dédicace à Mimi.
I got the wind on my face and the waves all around me. The rain in my heart does not change anything. Got my soul feeling down and my body so weary. I can cry all my tears, nothing changed anyway. Baby, I'm sorry when I cry. We spend our love together on the music live and turn. Always there beside me, helping me all the time. Sometimes it was so hard, but we fight by side by side. With your tender smile, you make my life so easy. Baby, I'm sorry when I cry.
You Can Come Back, Little Bob, Little Bob Bluesbusters sur l'album We Need Hope. L'émission n'est pas tout à fait terminée. Rappelez-vous qu'à 15h, on a rendez-vous avec Dan Zirotti pour Moonshine Blues spécial Sean Costello. En attendant, on va s'écouter quelques minutes d'une bonne vieillerie. Ça fait partie des premiers albums de blues que j'ai pu acheter. C'est peut-être votre cas aussi. Un album de 1977 qui s'appelle Hard Again par Muddy Waters. Et puis, on terminera par la chanson de 1971 dans la rubrique 50 Years After. Ce sera Imagine de John Lennon. Voici Muddy Waters.
Oh yeah. Oh yeah. Everything, everything, everything gonna be all right this morning. Oh yeah. At the age of five, my mother's child gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby. I have lots of fun. I'm a man.
Muddy Waters, 1915-1983. Derrière, on entend des gens comme Johnny Winter. Je pense que Johnny Winter, il est quasiment invité permanent de cette émission. On se retrouve samedi prochain, 1er mai, avec un nouvel invité, Dom Ferrer. Tout à l'heure à 15h, Dan Zirotti pour Moonshine Blues. Et en attendant, voici 1971, 50 Years After, John Lennon. John Lennon, Imagine. C'est ainsi que se termine ce 1103e Sweet Home Chicago. Vous restez bien sûr à l'écoute. Dans 10 secondes, c'est Moonshine Blues.